Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence, toujours aussi nombreuse dans toutes les salles. Ça fait plaisir d'avoir autant de lecteurs et de monde dans les rencontres. Bienvenue donc parmi nous pour cette conversation en compagnie de Yannick Haenel et Laura Vasquez. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue parmi nous. Comme vous le savez, Yannick Haenel est cette année l'auteur associé à cette édition des Jardins d'hiver. Il a donc eu la chance, le privilège de pouvoir inviter des auteurs, des réalisateurs qui l'aimaient. Et donc il a fait deux choix dans ce cadre-là. D'abord d'inviter Laura Vasquez donc pour ce temps de discussion aujourd'hui. Et puis demain, une rencontre avec la réalisatrice de documentaires et de films de fiction, Alice Diop. Donc on va assister à un échange entre deux écrivains qui se lisent, qui s'apprécient et qui ont un certain nombre de points communs, me semble-t-il, qu'on va essayer de développer pendant cette conversation. Je vais vous présenter rapidement l'un et l'autre, en rappelant, cher Yannick, nous étions ensemble hier, que vous êtes écrivain, romancier, auteur de livres assez divers, d'ailleurs, des essais, des textes plus ancrés dans le réel, parfois des textes à dimension philosophique, des romans notamment, depuis Les Petits Soldats en 1996, en passant par Cercle, par Les Renards Pâles, Tiens ferme ta couronne, plus récemment Le Trésorier payeur, et puis des textes également autour de la peinture, des peintres que vous aimez, du rapport à la peinture, du rapport entre l'écriture et l'art pictural, notamment sur le Caravage, sur Delacroix, et récemment, et c'est le dernier livre que vous avez publié aux éditions Stock dans la très belle collection Ma nuit au musée, ce livre qui s'appelle Bleu Bacon et qui est le résultat d'une nuit que vous aviez passée à Beaubourg dans l'exposition Bacon. C'est une proposition des éditions Stock qui est faite à certains auteurs de passer une nuit entière dans un musée seul, une expérience que vous relatez dans ce livre et on va évidemment en parler au fil de la conversation. Juste à côté de vous, Laura Vasquez, écrivaine, poète, romancière. Vous avez en effet commencé par la poésie avec un recueil de poèmes notamment publié aux éditions Chêne. On retrouve un certain nombre de vos textes dans une anthologie qui est juste ici et qui s'intitule « Vous êtes de moins en moins réel ». On aura d'ailleurs pendant cette conversation sans doute une réflexion sur le rapport au réel, sur la manière dont la littérature s'empare du réel et entre guillemets de la vérité. Il me semble que c'est quelque chose qui vous requiert l'un et l'autre. Et puis vous êtes passé, si on peut dire, au roman, avec d'abord un premier livre publié aux éditions du Sous-Sol qui s'intitule « La semaine perpétuelle », où vous ne perdiez pas votre dimension poétique, mais où vous passiez à une forme plus longue, avec une sorte de roman à multiples personnages, et notamment ce personnage de Salim, un garçon de son époque, si on peut dire, inscrit dans le rapport à Internet, dans la publication, à la fois de postes et de poèmes, et puis surtout, il me semble, une écriture qui vient de là, et on y reviendra peut-être pendant la conversation. Et puis peut-être le livre dont on va parler en particulier, toujours au sous-sol, ici même, qui s'intitule « Le livre du large et du long », qui est un livre, là aussi, une sorte d'épopée en cinq chants, qui porte en lui, me semble-t-il, là aussi, une réflexion sur la langue, sur le fait de trouver une langue pour dire le monde, ou pour essayer de le dire, d'une certaine façon. Donc on va évoquer, bien sûr, tous ces sujets. Je crois que c'est ce livre-là qui a particulièrement marqué Yannick. Peut-être un tout petit mot, on s'est dit qu'on allait proposer à Laura un temps de lecture pour qu'elle puisse faire entendre sa voix, son écriture. Mais peut-être d'abord, Yannick, question très simple sur la volonté de recevoir Laura aujourd'hui, la volonté d'échanger avec elle sur son travail. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous fascine, vous requiert dans son écriture et dans son travail ?
Oui, je suis très... Grand merci. Je suis très heureux que Laura ait accepté cette invitation. Moi, la raison de mon engouement est simple, c'est que j'ai eu un grand choc, un choc joyeux, un choc poétique, c'est le cas de le dire, en découvrant le livre du large et du long. Et j'ai eu à peine ouvert ce livre. Je peux lire quelques phrases ? Moi, je dis phrases, je ne sais pas comment tu dis, mais ça commence comme ça. Je n'ai pas mes lunettes, bon, ça c'est reparti.
Vous voulez que je le tienne ici ?
Non, ça va aller. Merci. Bon. Je vous raconterai ce que j'ai vu et deviné du monde et des signaux qui nous entourent. Bon, là, je me suis arrêté et je me suis dit, Ben, j'en ai pour toute la vie, c'est génial. Je veux lire ce livre, je pourrais le lire infiniment. Ça me faisait penser à Ovide, aux métamorphoses. Je vais raconter la métamorphose du monde. C'était voilà, comme dans les plus grands poèmes. Puis ça continuait. Je prélève des phrases, moi j'aime bien souligner. Je vous raconte la brûlure. Je ne voulais pas avoir de nom, je voulais dire la vie humaine. Et cette, je m'arrête bientôt, hein, ce désir d'annoncer et de réaliser en même temps, et de mettre dans la poésie quelque chose qui est de l'ordre du futur, le futur de la jouissance de la vie, se créer à soi-même son propre avenir. Pour moi, la poésie fait ça, en fait. Elle suscite un avenir de la langue, un avenir du monde. Et j'ai tout de suite reconnu ça, non pas que je sois à la hauteur de ça, loin de là, mais j'ai reconnu dans ce livre, dans ce texte, dans ces phrases, dans ces blancs, dans ces frémissements, quelque chose que j'aime depuis toujours, voilà, dans la poésie elle-même. Je me suis dit, voilà une poète, quoi.
Voilà une belle entrée en matière. Laura, je vous propose de lire. Vous voulez réagir à ce qu'a dit Yannick ? Dire un mot, ou si vous voulez d'abord un temps de lecture, comme vous le souhaitez.
Je vais d'abord lire, et après on discutera.
Je vous en prie.
Un poisson vivant dans une rivière ressentait de la pitié chaque fois qu'il croisait un poisson mort. Et pourtant, les poissons morts dans la rivière n'avaient plus de pitié. Et la pitié est une forme de douleur. Et la douleur est une forme de honte. Et la honte est une forme de doute. Et le doute est une forme de peur. Et la peur est une forme d'amour. Et l'amour est une forme de rivière. Et la rivière est une forme du mal. Et le mal est une forme de mort. Et la mort est une forme d'objet, et n'importe quel objet est une forme de renard ou d'animal possible. Et un renard est une forme de globe, et le globe est une forme de compréhension. Et je ne connaissais pas le mot compréhension avant de naître, et j'ai commencé à refuser discrètement de respirer, et un fantôme disait « J'ai commencé à refuser discrètement de respirer. » Et j'utilise une médecine mentale pour écrire. Et j'utilise une seule médecine mentale pour écrire. Et j'utilise une seule médecine mentale. Et le centre d'un problème n'est plus le problème. Et j'utilise le centre d'un problème pour détruire le problème. Et un paysage enneigé n'a pas honte de la neige. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Yannick, pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Et puis, je suis aussi et surtout très touchée par ce que tu as dit à propos de ce livre et à propos de ce qu'il a déclenché en toi, parce que ce que tu décris, c'est tout ce que je cherche dans un livre et même dans la sensation d'écriture au moment de l'écriture. Donc merci.
Peut-être pour prolonger ce que disait Yannick sur le rapport au sens, peut-être sur les interstices, sur la manière dont on s'approche ou qu'on ne s'approche pas d'une forme de réalité ou d'adéquation entre les mots et le réel. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot aussi de votre trajet, de la façon dont vous êtes entré en poésie, même si dans les romans, il y a toujours cette forme-là. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette écriture-là, dans ce rapport à la poésie ? Est-ce que c'est justement cette recherche de la langue ? Est-ce que c'est la question du rythme qu'on entend là ? Est-ce que c'est le fragment ? Est-ce que c'est tout ça à la fois ou autre chose ? Peut-être on peut commencer par là.
Oui, alors bon, c'est une grande question. Je dirais que ce qui me prend, plutôt que ce qui m'intéresse, c'est un mystère, en fait. Quelque chose d'immense, sans bord, très mystérieux, très complet, très total. Et alors, je cherche tous les jours, enfin, tous les matins, quoi, quand j'écris, en général, j'écris le matin, je recherche ça, à ressentir ça, à le ressentir complètement. Et donc, il m'arrive de le ressentir complètement quand la phrase vit dans une forme de justesse, dans une vibration particulière, elle vit à la manière d'un arbre, d'un être vivant, tout à coup, c'est là. Et c'est très, très, c'est entièrement mystérieux. Et je crois que c'est ça qui fait que je continue à écrire. Je cherche à trouver ça, à retrouver ça, non seulement en tant que personne qui écrit, parfois, mais aussi en tant que lectrice. C'est quelque chose que je cherche beaucoup dans les textes. Ce mystère, cette espèce de grande vibration universelle, même si le mot universel est très galvaudé, mais enfin, il y a quelque chose qu'on ressent tous à certains moments, et je pense que certaines phrases particulièrement, certaines phrases vraies, certaines phrases justes, si on les traduisait en langue de fourmis ou en langue de microbes, je pense que ces êtres-là aussi sentiraient exactement la même émotion que nous, qui est peut-être pas une émotion, mais c'est comme un état, en fait.
Peut-être une chose pour poursuivre là-dessus, par rapport à ces livres-là et au mystère, peut-être prolongé, c'est un mystère lié au fait d'être au monde, d'une certaine façon. Et en même temps, il semble que la littérature, que ce soit La Semaine perpétuelle ou le livre du large et du long, ne sont pas des livres qui cherchent à mettre en ordre ce sentiment de mystère ou de chaos, mais au contraire de le refléter, de l'incarner dans un langage ou dans une manière de dire. Est-ce que vous diriez cela, que finalement le mystère appelle le mystère de l'écriture ou quelque chose qui le reflète mais qui ne cherche pas à le mettre en ordre, à le ranger? Vos livres sont assez irruptifs, ils portent plusieurs voix, comme s'ils reflétaient davantage le chaos du monde que d'essayer de l'agencer.
Oui, ce qui est sûr, c'est que je crois pouvoir dire que ces livres-là n'apportent pas de réponse ni de solution à quoi que ce soit, mais par contre, apportent beaucoup de questions. Et c'est comme si les personnages, les voix, les figures qui vivent là-dedans, en traversant cette espèce de mystère, de question, y apportaient des ramifications. Et c'est comme si à chaque fois qu'on essayait de résoudre une question, d'en traverser une, on en atteignait d'autres, comme ça, sans fin. Et donc, y a quand même, un mouvement qui relie ces livres-là et sans doute les suivants, ceux qui vont suivre. Et c'est le mouvement de l'aventure, je me lance. Par exemple, dans le livre du large et du long, c'est un livre qu'on pourrait résumer en deux mots, qui serait « Je vais ». Bon, alors je vais. Et dans La Semaine perpétuelle, c'est pareil. Ils vont, les personnages, les voix, elles cherchent. Et donc, bien sûr, ça correspond au mouvement de l'épopée, mais ça correspond aussi au mouvement de la tragédie. Ça correspond aussi au mouvement englobant très vaste de certains grands romans. Je pense à des romans russes, des romans américains. Et tout ça est réuni en moi, en tout cas, par un sentiment vraiment à la base d'aventure. Je me dis qu'est-ce tous les matins, je me dis qu'est-ce qui va se passer. Le livre que je suis en train d'écrire, là, par exemple, je comprends rien. Je dois dire, je comprends rien du tout à ce que je fais. Donc, c'est quand même inquiétant parce que ça fait plusieurs mois que je travaille sur ça. Et je me dis, je comprends rien, je sais pas ce qui se passe, je sais pas où je vais. Et parfois, ça amène à certaines sensations d'angoisse, bien sûr. Mais à la fois, je me dis, mais si je savais, alors je le ferais pas. À quoi bon ? Donc c'est parce qu'il y a cet état d'aventure dans l'écriture que l'écriture peut arriver. Parce que si elle est déjà préconstruite, si les idées sont toutes en place, ou pire, si on a construit un message qu'on va essayer de faire rentrer dans le livre, alors là, il n'y aura pas de vivacité. Voilà.
Donc c'est bon signe quand vous vous dites que vous ne comprenez rien.
C'est-à-dire que c'est essentiel même, il faut que je me le dise.
Yannick, je ne peux pas m'empêcher de vous faire rebondir sur le mot d'aventure même. Je n'ai pas précisé dans la présentation que vous êtes à la tête d'une revue qui va se nommer ainsi, Aventure.
Oui, elle n'est pas encore sortie en avril. Ouais. C'est une nouvelle revue, Aventure.
Voilà, et il y avait ce texte qui s'appelle Le désir comme aventure, me semble-t-il, autour de la croix, non?
Mais oui, c'est vrai. Oui.
Ce terme-là d'aventure, il résonne sans doute très fort chez vous dans votre manière d'appréhender l'écriture et peut-être la lecture d'ailleurs également.
Oui, mais moi, ça m'émeut considérablement. Enfin, ce que tu viens de dire sur l'opacité nécessaire, enfin, sur le fait d'ouvrir comme un tunnel, comme ça, ciel ouvert dans la langue, et le fait de se jeter dans l'existence grâce au langage. Il y a une phrase de Flaubert, c'est pas pour faire des citations, mais moi, j'aime bien, très belle, enfin, qui dit « Les phrases sont des aventures ». Voilà. C'est-à-dire que c'est les phrases elles-mêmes, c'est la langue elle-même qui suscite l'aventure. On n'est pas seulement dans les Trois Mousquetaires. C'est quand tu dis chaque matin, j'aime bien aussi, parce que pour moi, c'est ça. Rien que le fait de dire chaque matin, je fais ça, j'écris ou je bois un bol de café, il y a déjà un monde qui se construit. Enfin, je rature. C'est pas qui se construit, qui se donne. On le prend ou pas. Et j'entends vraiment dans ce que tu viens de dire, et c'est là à chaque page, que les phrases peuvent être libres. Et pour moi, c'est une chose, j'allais dire c'est la base, mais c'est aussi la chose la plus inatteignable, la plus désirable, la plus faisable aussi quand on écrit chaque matin. Et surtout, c'est une grande chose politique. Les phrases peuvent être libres. S'il y a bien une expérience qu'on fait tous, c'est à quel point nous sommes accaparés, à quel point nous sommes ligotés par des langages politique, médiatique, etc. Enfin, dans notre travail aussi. Enfin, la langue est utilisée au quotidien pour contrôler, pour asservir, pour donner des ordres, pour commander. Et c'est la moindre des choses pour moi de penser, de vivre la littérature comme un lieu de recherche de cette liberté, ou même pas de recherche, de manifestation de cette liberté. C'est ce qui est le plus difficile, on le sait tous. Mais c'est aussi la seule chose justifiable dans une vie de ce... Parce que chaque personne qui travaille à sa propre liberté, en fait, travaille pour tout le monde. Et puisqu'aucune liberté ne va toute seule, enfin. Et donc, oui, moi, je ne sais pas, la poésie... J'ai jamais écrit de poésie, mais c'est ce qui m'a toujours le plus passionné au monde. Et en écrivant des romans, je me cache, en fait. Je me vis secrètement comme un poète incapable d'écrire de la poésie et qui écrit des romans qui sont de moins en moins narratifs au fur et à mesure de l'histoire, pardon, parce que c'est l'aventure qui me guide et l'aventure de la langue, évidemment. Donc voilà, aventure, phrase, liberté, tout ça résonne pour moi de manière... Là encore, c'est notre avenir à tous. Enfin, il n'y aura plus que ça un jour. À moins qu'ils réussissent à nous le prendre, mais on ne se laissera pas faire.
Peut-être l'un et l'autre, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous envisagez justement ce rapport à la langue, peut-être à une langue figée ou à une langue sclérosée ou dans un carcan. Comment est-ce que l'un et l'autre, vous... C'est peut-être pas une invention, mais en tout cas une manière, enfin une invention à ce moment-là au sens archéologique du terme, c'est-à-dire en grattant la phrase, le mot, le lexique, la musicalité. Comment est-ce qu'on trouve sa langue? Est-ce que c'est la vôtre que vous cherchez? une voix, une langue intérieure? Est-ce que c'est une manière justement de distordre peut-être le côté figé de la langue? Comment vous l'envisagez l'un et l'autre, cette recherche poétique et donc cette recherche dans la langue? Peut-être Laura, pour commencer.
Oui, alors... disons, bon, je vais répondre de manière assez concrète. Il y a des formes figées. La forme figée, de toute manière, dans la langue ou même le lieu commun, c'est en soi un objet qui provoque soit rien, soit plutôt une forme d'angoisse, parce qu'il y a immédiatement quelque chose de faux là-dedans, quelque chose qui sonne faux. Mais ces formes-là, figées, peuvent être aspirées par un livre, parce que les livres, quand on écrit un livre, parfois il se passe quelque chose, c'est que soudain, le livre est capable de tout aspirer, de tout prendre. Tout ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on pense, la manière dont on ressent les choses, ben ça va pouvoir rentrer d'une manière ou d'une autre dans le livre. Parfois, ça va prendre la forme d'une virgule. Parfois, ça va être une idée plus élaborée par rapport à une chose vue, une chose ressentie. Par exemple, dans La semaine perpétuelle, il y a un passage qui est un roman, il y a un passage avec un assistant social qui intervient auprès d'une famille qui se trouve dans ce livre. Et l'assistant social, il a vraiment la voix, disons, un peu typique, jargonneuse, de la nouvelle langue bureaucratique et tout ça. C'est vraiment très, très, très caricaturé. Mais dans un roman, dans un texte qui est déjà là, qui est déjà lancé, qui a déjà son monde et ses règles, alors même ça devient quelque chose qui se dérègle légèrement, qui se décale légèrement et devient donc un nouvel objet littéraire à l'intérieur de l'objet littéraire. Et c'est pourtant une forme figée, c'est la langue de la bureaucratie là, dans ce texte-là, mais qui est transformée en quelque sorte et très légèrement. Et c'est un passage qui, je trouve, est assez drôle. Enfin, quand je l'ai écrit, j'ai beaucoup ri. Et dans le livre du large et du long, de la même manière, il y a des formes figées qui sont rentrées, qui ont été absorbées par ce texte. Et là, ce sont les dictons. Il y a toute une liste de dictons, mais qui sont légèrement déformés, légèrement transformés avec d'autres petites formes de rebond à l'intérieur des phrases ou des relatifs qui sont un petit peu brisés, des choses assez légères, des choses très grosses aussi, en fait c'est un mélange. Mais en tout cas, c'est parti d'une forme figée, qui est celle du dicton, du lieu commun, du proverbe. Et je pense que les livres sont, enfin la littérature est si vaste, grande, j'allais dire, mystérieuse, immense, qu'elle peut même absorber ce qui semble complètement figé et même non littéraire, disons.
Je laisserai réagir, Yannick, peut-être encore un tout petit mot sur La semaine perpétuelle, parce que j'ai évoqué le lien à Internet en disant en introduction que c'était moins un livre sur la toile ou sur cette dimension-là qu'à partir de. On a le sentiment que la langue est d'une certaine manière contaminée par les dimensions qui ont à voir avec ces endroits de communication, de la vitesse, de l'accumulation. Est-ce que vous diriez là aussi que finalement c'est un ancrage de la langue poétique sur des dimensions alors qui sont peut-être plus communicationnelles ou plus triviales ou plus qui ont à voir avec cette dimension-là? Vous l'envisagez de cette manière-là, le lien notamment à Internet dans ce livre-là?
Alors, bon, c'est vrai que dans ce texte-là, beaucoup de passages ont un lien avec Internet, mais je n'écris pas sur. Je n'écris pas des livres sur. J'écris des livres avec. Donc, avec ce qui se présente, avec ce qu'il y a. Et là, dans ce texte-là, c'était par moment avec, disons, Internet et des formes qu'on peut trouver sur Internet, mais parce que ça donnait au texte plus de souplesse, sans doute, et le texte, à un moment donné, a pris ça, a attrapé ça, pour faire parler différents personnages, pour faire apparaître des textes très courts et un peu cassés, qu'on trouve, par exemple, dans les sections commentaires, sous les vidéos, sur certains sites ou sur des réseaux sociaux. C'était des formes qui, pour ce livre-là, étaient précisément les bonnes. Donc le texte, le livre à ce moment-là a pris ça et ça a beaucoup servi à ouvrir des voies, à créer des petites résonances comme des petites cases nouvelles de voix. Mais c'est pas, je dirais pas vraiment, c'est vrai que ça a été beaucoup mis en avant hein, quand on a parlé de ce livre, mais c'est pas vraiment un livre sur Internet. On pourrait dire que Il y a Internet dans ce livre par moment, mais il y a aussi des arbres et aussi de la lumière. Et il y a aussi des histoires de peau, etc.
Voilà. Oui, beaucoup de peau et de corps, mais on y reviendra peut-être, Yannick, sur la question du langage, du rapport à l'invention de la langue, peut-être pour répondre à ce que disait Laura tout à l'heure.
Ah ben moi, ce que j'aime chez elle, entre autres, enfin, dans ses textes, c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas encore parlé, mais on l'a tous senti quand tu as lu, c'est la syncope, la respiration, la psalmodie aussi, quelque chose d'une accumulation, tu disais, mais d'une accumulation qui est peut-être sans intention, sans ironie, mais qui crée justement ces décalages d'humour et de poésie qui deviennent quasiment cosmogoniques, en fait. D'un coup, parler de son évier, de problèmes cutanés, de poissons, et là, je ne sais pas comment tu fais, mais quand même, il est évident tout de suite qu'on est dans une dimension beaucoup plus vaste, enfin, que précisément les mots les plus simples, enfin, parce que ton langage aussi puise au plus familier, enfin, prennent une envergure, voilà. Quelque chose qui me fait penser, pardon de donner des références comme ça, mais moi, j'ai une bibliothèque dans la tête, comme ça, qui n'est pas du tout pesante, qui me rend beaucoup plus léger à mesure que je vieillis. Et ça vient comme ça, les phrases, et j'aime bien que tu parles de ce répertoire qui est là, que sont tous les livres, toutes les bibliothèques qu'on ouvre et qu'on compulse, qu'on parodie parfois. Et moi, j'ai pensé à Lucrèce, enfin, c'est, voilà, aux atomes, enfin, à Dererum Natura, je ne sais plus. Enfin, y a cette dimension, qu'elle soit voulue, étudiée ou pas. Ce que j'aime dans la poésie, ce que j'appelais le langage le plus libre, enfin, c'est ça, c'est que être dans sa cuisine, c'est être au centre du monde, enfin. Prendre soin d'une dorade qu'on cuit pour son compagnon ou sa compagne et ses enfants, ça devient quelque chose qui fait déborder le réel, justement. Tu voulais qu'on parle du réel et de la fiction. Je crois que dans la poésie, il me semble, en tous les cas dans la tienne, ces questions ne cessent de se métamorphoser, en fait. Réel et fiction, ça ne veut rien dire dans la poésie. Et je crois que ça ne veut rien dire dans la littérature, en fait. Alors, les genres, c'est bon aussi, c'est bien, on peut en jouir. Les bordures, c'est fait pour ça. Mais je ne sais plus quelle était ta question, puis ce n'est pas très grave, non ?
Ce n'est pas très grave, on va passer à la prochaine. Je voudrais revenir sur ce que vous avez, je vous vois, hein, par... disons par
ah oui, pardon, je t'ai tutoyé.
Mais il n'y a aucun problème. Peut-être revenir à ce que vous disiez au tout début, Yannick, sur la première phrase du livre du large et du long. Je vous raconterai ce que j'ai vu et deviné du monde et des signaux qui nous entourent. Il me semble que ça ne m'étonne pas que ça résonne chez vous. On parlait ensemble hier de Bleu Bacon lors d'une autre rencontre. C'est un livre de sensations, c'est un livre de scopie, de ce qu'on voit, de comment on rapporte, de ce qu'on ressent, et y compris de ce qu'il y a de plus infime. Donc, peut-être nous dire un mot de cela, parce qu'on comprend que cela résonne très fort chez vous quand on lit vos livres, et notamment le dernier autour de cette exposition sur Bacon.
Ah, vous voulez que je parle un peu de mes livres ? C'est plutôt pour Laura, mais alors un petit peu.
Alors, un petit mot par rapport à ce qui est votre... aussi sur la manière dont ça résonne chez vous.
Moi, j'essaye de mener des expériences sans cesse, mais pas en scientifique, et pas dans un laboratoire, mais j'aime les expériences notamment d'immersion. Alors on peut être en immersion dans sa propre vie, c'est un peu le cas, mais la dernière immersion que j'ai eu la chance de faire, c'était dans un musée la nuit, pendant 10 heures. C'était à la fois épouvantable, parce que j'avais choisi l'un des pires peintres, je veux dire un peintre qui me fait peur, quoi. Bon, pour moi, c'est l'un des plus grands peintres, hein. c'était pas un jugement de valeur, c'est juste que ça agit. Et c'était en même temps une expérience absolument féerique. Et là, il y avait quelque chose que je retrouve aussi dans les livres de Laura, quelque chose qui, pour peu qu'on s'y rende disponible, j'allais dire avec douceur, parce que ta langue, elle est fulgurante mais douce. Il n'y a pas de violence, enfin, c'est le monde qui est violent. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des vitesses, il y a des ralentissements, mais il y a une impression de douceur décisive, enfin, des choses éclosent et se disent de manière immédiate. Et durant cette nuit, là, enfermée, entre guillemets, volontairement, à Beaubourg, avec les tableaux de Bacon, c'est pas que j'ai apprivoisé quoi que ce soit, parce que ça ne s'apprivoise pas, la peinture, mais peu à peu, en accommodant, d'ailleurs j'avais perdu la vue pendant 2 heures à cause d'une migraine ophtalmique, mais c'était Bacon qui agissait déjà, c'est un sorcier Bacon. Hein. C'est comme s'il me disait, toi tu crois que tu vas me voir, mais attends, tu vas voir ça, tu vas voir justement, tu n'y verras rien. Mais il se trouve que peu à peu, effectivement, le corps, en s'ouvrant, en se rendant disponible aux sensations, écoute, le corps écoute, le corps se met à parler, même de manière silencieuse. Et moi, j'essaye d'écrire au plus près de ça. Enfin, là, dans le livre sur Bacon, il y a presque plus de narration. C'est une aventure, voilà, comme tu dirais. Juste une nuit où j'ai essayé d'être au plus près de, non pas d'une peinture, mais des impacts de cette peinture, d'être fidèle à ce que la peinture nous fait. Et donc, c'est un compte rendu d'une nuit où j'ai subi, avec amour, finalement, la peinture de Bacon. Voilà. Donc effectivement, il y a quelque chose enfin, qui est proche. Enfin, chaque écrivaine et écrivain est complètement neuf et reste neuf, mais rien n'est imperméable. Quand je disais que je me sens très proche de ce qu'écrit Laura Vasquez, alors qu'on a pas du tout les mêmes âges, les mêmes histoires, les mêmes surgissements. Je sens que c'est de l'intérieur. Enfin, quand elle écrit le mot couteau ou pierre ou poignard, il suffit que j'ouvre chaque page quelque chose. Je vois une biche qui passe. C'est pas seulement des détails là. C'est une pulsation, une scansion. Je reconnais quelqu'un qui n'est pas moi, qui est elle. Mais c'est comme si ce quelqu'un, je le connaissais depuis toujours. Mais sauf que ce quelqu'un que je connais depuis toujours ne s'était pas exprimé. Et donc, quand on lit un bon livre d'un coup, ou un grand livre, quand on découvre une écrivaine, on sourit de joie parce qu'on a l'impression qu'elle était là depuis toujours, en fait, dans le bois, derrière, au fond, là, dans l'opacité dont tu parles. Et bon, ça, c'est une bonne nouvelle.
Vous êtes sortie du bois, Laura. Peut-être revenir à cette question du corps et de la sensation, parce qu'il me semble que ça ouvre plusieurs choses dans votre travail. D'ailleurs, il y a cette chirurgienne qui a à voir avec le corps, avec peut-être, je n'avais même pas pensé, avec le fait de disséquer, de rentrer sous la peau. Et alors, je ne sais pas si on doit dire de soigner, mais une manière de s'inscrire. On peut partir de là, parce qu'il y a toutes les questions des sensations, du rapport aussi aux vivants, aux animaux et aux non-vivants d'ailleurs, puisque Yannick parle des couteaux, des objets, il y a cette dimension-là. Et le rapport au corps, il est primordial dans l'écriture, il est presque une matrice. Ça fait beaucoup de questions en une, mais...
Oui, c'est vrai que en tout, il se passe quelque chose de peut-être de physique, physiologique, anatomique au moment où... au moment où on écrit. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas toi, Yannick, mais moi, je trouve qu'on n'a pas le... C'est comme si on n'avait pas exactement le même corps au moment où on écrit et au moment où on vit, on discute. C'est comme un autre corps. C'est comme un autre souffle, une autre manière de ressentir les choses et une autre vision, en fait. C'est des yeux qui s'ouvrent à l'intérieur. Même presque une bouche qui s'ouvre à l'intérieur aussi. Et donc oui, alors pour le rapport au corps dans ce texte-là, ce que tu disais par rapport à Lucrèce, bien sûr, c'est très juste, parce que c'est peut-être Lucrèce qui a lancé ce livre pour moi. Oui, c'est ça a été une lecture très importante pour moi. Il y a quelques temps, quoi. J'étais assez jeune hein, quand j'ai lu De Natura Rerum. Et ce qui m'a fascinée, c'est cette volonté humaine classique, en fait, enfantine presque, de tout comprendre et de vouloir tout expliquer. Des plus petites choses, donc les atomes, aux plus grandes, aux plus immenses. Cette volonté presque touchante, quoi. Touchante, presque. Il y a quelque chose de quasi pathétique de la part des êtres humains, à vouloir tout comprendre et tout expliquer comme ça, alors qu'ils sont si minuscules dans le grand univers et qu'ils savent et qu'on sait si peu de choses. Et donc ce mouvement-là, cette volonté de compréhension de tout, m'a vraiment profondément marquée, touchée, parce que je pense que j'ai retrouvé quelque chose qu'on porte tous en nous et qu'on ressent beaucoup quand on est enfant, quand on essaie juste de comprendre les choses. Exemple, pourquoi on ne peut pas voler ? Peut-être qu'on peut voler. Enfin, quand on est petit, on se dit peut-être on peut. Peut-être si je cours vite, bon, personne n'a encore compris, mais moi je vais trouver... si je cours vite un peu par côté comme ça, je vais peut-être m'envoler. Quand on est enfant, on se dit des choses comme ça. On se dit qu'on va être capable de comprendre, de trouver, d'expliquer, de toucher les choses, de les relier les unes aux autres. Et Lucrèce, dans sa grande volonté encyclopédique, il est parti de ce même mouvement. Et donc ma narratrice a fait ça aussi à sa manière. Donc c'est un texte qui m'a vraiment beaucoup influencée, si je puis dire. Et donc, dans cette volonté de tout comprendre, de tout savoir, de tout expliquer, bien sûr, il y a l'ouverture du corps. Qu'est-ce qu'une personne ? Qu'est-ce qu'un être humain ? Qu'est-ce qu'une personne ? Qu'est-ce qu'on est soi-même ? On ne sait pas. Alors, bon, ouvrons. On va peut-être trouver la réponse. Donc, c'est ce que se dit la narratrice qui rencontre des chirurgiens, des chirurgiennes, des médecins un peu bizarre par moment, qui sont sans doute des médecins qui errent dans sa tête. Et elle ouvre, elle essaie d'ouvrir les choses, les objets, et puis les objets portent les objets. Bon, tu parlais des couteaux, par exemple.
Si on peut le vous voyez.
Ah oui,
non,
pardon.
Non, pas du tout. C'est avec grand plaisir.
Les objets, parce qu'il y a beaucoup d'objets dans ces textes-là, dans mes livres en général, les objets portent la marque humaine. Encore une fois, il y a quelque chose d'assez touchant dans un objet. Qu'est-ce qu'il y a de plus émouvant que, je sais pas, que la découverte par un archéologue d'un tout petit objet dont quelqu'un s'est servi il y a quelques millénaires. Je me souviens, l'année dernière, j'étais à Rome et il y avait une chercheuse archéologue avec moi. Elle avait fait des fouilles dans un mur, dans tout un tas qui était à l'intérieur d'un mur. Et elle avait trouvé... un petit poudrier pour se repoudrer le nez, quoi. Un petit poudrier qui était là, avec de la poudre à l'intérieur, mais qui était millénaire. Quelqu'un s'est repoudré le nez, et a perdu cet objet parce qu'il y avait eu un éboulement, enfin, tout s'était écroulé, je ne sais plus exactement quelle est l'histoire. Elle avait retrouvé ça, cet objet. Et bien sûr, c'est très émouvant, de la même manière que sont émouvantes les mains négatives dans les grottes, quoi.
Yannick, peut-être par rapport au fait d'ouvrir, je pense à un extrait de Le sens du calme, où vous évoquez, on en a parlé hier ensemble, le fait d'écrire ces moments de foudre. Et vous écrivez aussi, il me semble, je vais peut-être mal... L'idée est de passer par le trou, c'est d'entrer. D'ouvrir, d'une certaine manière. Ça m'a évoqué cela lorsque Laura a dit ce mot-là. Peut-être n'est-ce pas la phrase exacte.
Oui, mais... non, si, c'est l'idée. C'est vrai qu'on se représente souvent, et tu parlais de parois, de Lascaux, moi je suis obsédé par les grottes, on se représente souvent l'existence comme étant limitée, et on se représente souvent les espaces dans lesquels on vit ou pas, comme étant bordés de murs, en fait. Mais moi, depuis que je suis petit, puisque tu parles de l'enfance, qui d'ailleurs ne cesse de jaillir dans tes textes, depuis que je suis petit, je vois des trous partout dans les murs. Et c'est devenu une méthode. Enfin, tu parlais tout à l'heure de l'écriture le matin, moi aussi j'écris le matin. J'ai beaucoup écrit durant la nuit, quand j'étais plus jeune, des nuits blanches d'écriture. Maintenant, c'est le matin très tôt. Enfin, mais je vois la page comme un mur blanc, un mur invisible, je ne sais pas si une telle chose existe, dans lequel je vais pouvoir me glisser, je vais passer. Mais étrangement, il ne s'agira pas d'ouvrir une porte pour se retrouver de l'autre côté. Je serai encore du même côté, mais pourtant, j'aurai passé la porte. Bon, voilà, c'est ma géométrie un peu bizarre, personnelle. Mais il y a vraiment cette idée que la société ne cesse de boucher les trous. Et je pense que nos cerveaux, nos cœurs, nos sexes, au contraire, les ouvrent, quoi. Ça s'appelle ça, c'est ça, vivre, enfin, pour moi. Et pour moi, rien de ce qu'on aime ne va sans dire. Enfin, aimer, ça ne va pas sans dire. Ça suscite du langage toujours. Et je ne sais pas, dans la correspondance de Van Gogh à son frère, il parle de ça, du fait de limer peu à peu le mur pour passer de l'autre côté. Alors lui, il veut passer de l'autre côté. Mais chez lui, c'est tragique, parce que passer de l'autre côté, c'est aussi la folie. Mais il y a ça, enfin, de ne pas se satisfaire des parois. Parce que malheureusement, les parois dont je parle, ce n'est pas celle de la peinture pariétale. Enfin, ça serait trop beau. Voilà, les trous.
Peut-être pour revenir à l'enfance, je crois que c'est dans le livre du large et du long, si je ne me trompe pas, Laura, il y a le terme d'enfant, enfin le positionnement presque qui est celui de la compréhension du monde, passe par l'enfance. Il y a les mots d'idiot, d'abruti, me semble-t-il. Il y a presque cet endroit, alors même qu'on comprend que vous êtes habité par une forme de bibliothèque et donc d'une manière de comprendre le monde à travers aussi la littérature, il y a la volonté de revenir à une forme de fraîcheur, d'innocence, qui est l'enfance ou le non-savoir ou un endroit vraiment de l'expérimentation du monde. Peut-être vous pouvez développer cela parce qu'il me semble que c'est très fort là et que chez vous, Yannick, il y a aussi quelque chose de cet ordre.
Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs valable pour toutes les disciplines, si je puis dire, cette espèce d'innocence, d'émerveillement. Le fait aussi de se défaire de tout ce par quoi on est recouvert dans la pensée, dans l'idée, dans le concept. Et ça me fait penser au zéro, parce que en mathématiques, le zéro, beaucoup de mathématiciens à travers les siècles et les siècles, des mathématiciens brillants, sont passés à côté du zéro, enfin, n'ont pas pensé au zéro. Et un jour, dans différentes cultures, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons pour schématiser, quoi. Un jour, quelqu'un a pensé au zéro. Tard. Très tard. Et cette personne, il y avait plusieurs personnes à différents endroits, plus exactement, mais cette personne, pour penser au zéro, il a fallu que pour un instant, elle se défasse de tout le reste et qu'elle soit parfaitement innocente à un moment donné, en quelque sorte. Et c'est un peu comme ça aussi qu'arrive la poésie. D'ailleurs, la poésie et les mathématiques sont très proches parce qu'il y a la même justesse, hein, la même précision, très très fine. Simone Veil, la philosophe, parle beaucoup de ça aussi, de l'innocence et de la découverte. Elle parle beaucoup de la grâce. Il me semble que je voulais dire autre chose, mais là, je ne trouve pas. J'ai répondu à la question ou pas ?
Oui, il me semble. Par le zéro, en plus, qui est quand même... Yannick, sur ce sujet, sur l'innocence ou sur le fait de ne pas savoir, d'être en situation de regarder le monde avec, je ne sais pas si c'est les yeux de l'enfance, les yeux de l'idiot, on a parlé de Mishkin hier ensemble, il y a aussi cela.
Ah ben moi, c'est ma passion, hein. Je me dévoue à la littérature pour rejoindre ce point. Alors c'est très beau ce que tu as dit sur le zéro, ça m'ouvre... arrêter là, aller prendre des notes et puis commencer à écrire quelque chose.
On va encore rester là quelques minutes.
Je disais hier dans notre entretien que j'ai une passion pour Saint-François d'Assise, mais aussi pour Buster Keaton. Et donc c'est la sainteté, mais faut pas. Je veux pas qu'il y ait que la sainteté. Enfin, d'ailleurs, j'en serais bien incapable y accéder. Mais dès qu'on la désenclenche avec une figure dite grotesque ou idiote, d'un coup, on voit quelque chose d'autre. Enfin, et bon, l'innocence, plus sérieusement, c'est, j'ai envie de dire comme Deleuze dit dans l'abécédaire, il dit ça de la philosophie, c'est trop grand pour moi. Enfin, mais il le dit avec un tel sourire d'enfant, c'est trop grand pour moi, un appétit, un amour gourmand, qu'on voit que bah, il est en rapport avec ça. Et le prince Mishkin, c'est-à-dire celui qui, dans la littérature, idéalement représente l'enfance du langage, le langage qui est resté dans une dimension où il n'essayera jamais d'être un pouvoir, où il se défera, j'aime bien que tu emploies ce mot, il se défera de tout ce qui relève du rapport de force. Eh bien, ce prince Mishkin, là, en tant qu'il est la littérature lui-même, pour moi, ou la poésie, je ne sais pas comment dire, enfin, on s'en fiche un peu, enfin, moi, je l'aime, tout simplement. Enfin, mon amour, mon désir de littérature, mes tentatives quotidiennes d'écrire, parfois des livres ou parfois pas, hein, j'écris pour moi aussi, dans des cahiers que je rouvre pas, il est fondé sur ça, sur une attraction amoureuse pour ce que j'imagine être l'innocence. Et bon, c'est la seule justesse possible. Enfin, dans la vie, ça pourrait être la seule éthique, la seule politique. Malheureusement, on sait très bien que politique et innocence, ça va pas ensemble. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, la littérature, c'est un lieu où ça peut aller ensemble.
Il y a une chose peut-être que j'aurais aimé évoquer avec vous, alors vous allez trouver peut-être la question un peu ésotérique, mais je vais y aller quand même, c'est votre rapport au cercle. Chez vous, Yannick, il y a un texte, évidemment un livre qui s'intitule « Cercle », avec ce labyrinthe d'ailleurs, et on y reviendra. Le cercle est très présent chez vous, Laura, aussi, à plein d'endroits dans vos livres, notamment dans le recueil, mais pas seulement. Alors je vais y aller. Quel est votre rapport au cercle,
Alain et à l'autre ? Du zéro au cercle, c'est pas mal. Tu veux commencer, je sais pas, comme tu veux.
Oui, bon, pour moi, le rapport au cercle, un livre en général ressemble pas mal à un cercle. Et donc, il y a quelque chose de terminé, il y a quelque chose qu'on peut ouvrir n'importe où, il y a quelque chose de fascinant dans le cercle. Et il y a aussi l'idée de variation, de répétition, de boucle. Donc oui, le cercle revient beaucoup. Je n'irai pas m'aventurer dans une interprétation rigide de ce qu'il représente. Ça dépend des livres, ça dépend des textes. Mais c'est vrai que tu as raison, il revient beaucoup dans mes poèmes.
Presque autant que le miroir.
Oui, mais d'ailleurs, un cercle et un miroir, ça se ressemble aussi. C'est pareil.
On va me réexpliquer cela. Yannick
Moi, j'écris un livre qui s'appelle Cercle, en effet. Mais c'était aussi le livre que j'essaye d'écrire. Alors, franchement, je dois avoir trois phrases pour l'instant. C'est l'histoire d'un type qui tourne en rond. On me dirait passionnant, super livre. Mais vous allez voir. Hein. Bon, je vous donne rendez-vous d'ici 4-5 ans parce que je suis un peu lent quand j'écris un roman. Mais blague à part, je sais pas, le cercle, moi c'est une figure effectivement qui m'est familière, enfin, parce que pendant longtemps j'ai beaucoup déambulé, je continue à beaucoup marcher à pied, mais à une époque j'étais un peu plus libre dans ma vie, disons, enfin disons que je me foutais de tout, pour tout dire. Et ce qui est plus le cas. Et donc parfois je partais, tu disais je vais, et puis je rentrais pas, quoi. C'est-à-dire que quand j'écrivais Cercle, je suis parti pendant des mois, même des années, en fait, sans rien, avec un tout petit peu d'argent, enfin des économies. Mais je voulais vivre quelque chose, enfin, qui était une aventure, voilà, une aventure poétique. Et j'écrivais en même temps. Bref. Il se trouve que le cercle, moi, je le vois de manière très intime comme étant lié, alors non pas au miroir, mais au labyrinthe, tout simplement. Parce que les labyrinthes, et dans Ma nuit avec Bacon, il s'agissait encore de ça, Dans un labyrinthe, les gens disent qu'on se perd. Mais moi, je pense surtout qu'on fait revenir les choses. On fait revenir le temps. On revient sans cesse sur ses pas. Ça ne veut pas dire se perdre. Revenir sur ses pas. Moi, j'aime revenir sur mes pas. Je trouve que ça a à voir avec le fait de penser, avec le fait d'accumuler, justement, de reprendre vie. Et donc, ça tourne tout le temps, voilà. Ça tourne.
Depuis toujours, je bougeais pour comprendre. Vous écrivez ça, Laura, dans votre texte. Vous avez parlé du mouvement, ça boucle la boucle. On est raccord avec le cercle, mais c'est ça, c'est le mouvement de la langue, c'est le mouvement de l'écriture, et c'est aussi le mouvement des corps. Comment vous l'envisagez, ce mouvement ?
Oh bah disons que dans ce livre-là, le livre du large et du long, donc c'est une traversée qui se fait par différents types de mouvements, mais disons que celui qui structure le texte, sa construction, c'est le mouvement des cinq livres. Donc cinq livres, c'est comme une langue, elle a une langue, cette narratrice, et à l'intérieur de cette langue, il y a différents courants qui sont cinq. Elle essaie cinq voies, cinq possibilités. Donc il y en a une qui est un peu abrupte, un peu sèche. Il y en a une qui est tout en verbe et en mouvement, qui avance très vite. Il y en a une autre qui est plus réflexive. Et il y en a une autre qui se dissout beaucoup. Et elle essaie de trouver quelque chose à travers sa propre langue, donc sa propre pensée, donc sa propre vision du monde, son rapport aux autres, au visage, aux figures, à tout, à elle-même. Et ça passe par cette exploration-là. Donc depuis toujours, elle bougeait pour comprendre. Elle a la sensation d'avoir bougé, depuis toujours, d'avoir cherché, depuis toujours, et de n'avoir pas trouvé. Alors là, elle décide vraiment de chercher complètement et de le partager à travers un livre, donc, et à travers plus qu'un livre, c'est une parole. Et elle s'adresse à des personnes qu'elle appelle mes gros, mes grosses. Mes gros, mes grosses, mes sœurs. Et elle leur parle, elle leur explique ce qu'elle voit, ce qu'elle sent. Parce que en ayant des témoins de cette manière, peut-être qu'elle va trouver, parce qu'elle va devoir exposer. Et c'est ce qu'elle fait tout au long de ce livre, qui d'ailleurs forme un cercle.
Je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement. C'est lire, lorsque vous m'avez envoyé la semaine perpétuelle, vous m'aviez envoyé le livre très gentiment, avec une petite dédicace. C'est un peu indiscret, mais il me semble que c'est très intéressant sur la manière dont vous envisagez la réception de vos livres, et ça sera peut-être une manière de conclure. Donc vous m'aviez envoyé ce livre en me disant, donc pour Yann, ce premier roman, La semaine perpétuelle, pourriez-vous pendant quelques secondes constater les mouvements de votre esprit, mais avec la même objectivité qu'un météorologue face à la neige ou au vent.
Waouh.
Je me souvenais pas d'avoir écrit ça.
Jamais posé une question à un auteur sur la dédicace qu'il m'adressait, mais il me semble qu'il y a là quand même à dire.
Ouais, c'est vrai. C'est... ça m'étonne moi-même.
Alors, non on...
Vous voulez que je réponde peut-être, à cette question ?
Bien sûr, constater les mouvements de votre esprit avec la même objectivité.
Ouais, je pense que ça a à voir avec les sensations, avec le dérèglement des sens, etc. Quoi. C'est observer les sensations à l'intérieur de soi. C'était le but de ce livre et de tout livre, c'est de créer des sensations, un dérèglement des sens quasiment.
J'espère que je ne vous ai pas gêné avec cette incise. On va s'arrêter. Il y a une chose peut-être pour terminer vraiment qui me semble intéressante et importante de discuter avec vous. On a compris que vous étiez l'un et l'autre des lecteurs et que l'écriture allait de pair toujours avec la littérature, avec la lecture. Et en même temps, il me semble que vos livres, ils sont pétris d'autres livres, ils sont pétris de références, ils sont constitués d'une forme d'érudition. Et il me semble qu'ils sont du côté du jaillissement, de la vitalité et de la joie, peut-être. Est-ce que vous pouvez dire un mot de cela, le rapport à ce qui est peut-être une forme de construction intellectuelle dans le rapport à la littérature, et quelque chose qui a à voir avec, je ne sais pas si la vitalité est le bon terme, ou la joie, mais quelque chose de cet ordre. Il me semble que c'est aussi quelque chose qui vous réunit. Et puis si on peut terminer cette rencontre en parlant de la joie, c'est peut-être pas dommage.
C'est bon à prendre.
Ouais.
Je t'en prie.
Oui, ben, moi je trouve ce que j'ai lu de toi Yannick, j'ai trouvé tes livres très drôles.
Merci, je le prends comme un compliment.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'humour déjà dans la narration, dans la construction narrative, mais même dans le rythme en général et dans l'enchaînement des phrases. Et tu parlais de joie. Moi, je ressens à la lecture de certains livres vraiment de la joie. Mais des livres qui parfois sont vus comme des livres sombres, des livres durs. Exemple de Dostoïevski, je trouve que c'est même dans les scènes les pires, et chez Dostoïevski, les pires scènes sont très très terribles. Il y a une espèce de vigueur, de vitalité dans les phrases et dans l'enchaînement des phrases qui font que c'est drôle. Il y a quelque chose de drôle, il y a quelque chose de vivant. Et quelque chose qui donne un grand élan, un grand enthousiasme dans la lecture. Et je me surprends parfois à lire des textes, des livres, quand je lis un livre qui me provoque ça. C'est pas non plus très courant, hein, mais ça m'arrive. Ben, je me surprends vraiment à être complètement emballée. Enfin, il y a quelque chose, une euphorie presque. Et il m'arrive, je dois dire qu'il m'arrive d'applaudir, quoi, physiquement, quoi. Il y a quelque chose de, et je relis ça un peu au mécanisme de l'humour, à la drôlerie. Mais c'est finalement de la vie, un élan de vie. Mais c'est une drôlerie qui est comme celle des bébés. Les bébés rient. Parce qu'ils sont surpris, parce qu'ils ont vu quelque chose de beau, quelque chose d'éclatant. Mais c'est cette drôlerie-là, en fait, qui apparaît.
Ah, c'est merveilleux. Je souscris à tout ce que tu as dit, c'est très beau. Et, non, non, mais c'est quand j'étais étudiant à Rennes, je sais pas, j'avais 18 ans à peu près, on allait au Penny Lane. J'ai eu la joie d'y aller il y a deux jours. J'ai vu que c'était la même musique il y a 35 ans, c'était la musique punk. Je me suis dit, mais c'est incroyable, enfin, ils n'ont pas changé. Et on passait du temps là, parce que le café n'était pas cher, la bière non plus, et entre les cours de la fac. Et on lisait à voix haute entre amis le soir. Bon, là, on avait déjà bu un peu plus de bière. On lisait à voix haute des livres et on criait de joie. Mais vraiment, on poussait des hurrahs en lisant Blaise Cendrars, et en lisant, je ne sais pas si Tarkos, moi j'adore Christophe Tarkos, je ne sais pas si on le lisait déjà à l'époque, mais même Proust, hein, quand je disais que je souscris à tout ce que tu as dit, c'est moi Proust me fait mourir de rire.
C'est hilarant.
Mais pleurer de.
Mais vraiment.
c'est ce que je pense aussi. Hein, je vois que on est au moins deux à penser ça, je ne sais pas, c'est tellement. Même son chagrin. Même son chagrin est dit d'une telle manière que je ris d'émotion. Voilà. Je pense que la littérature, enfin c'est ça, tu as raison, c'est vers la joie.
Dans Bacon, d'ailleurs, à la fin de l'expo, tu applaudis, tu cours aussi, comme le fait Laura devant un livre. Je finis par te tutoyer, tu as vu,
on y arrive. Voilà, ça y est, c'est vrai, j'avoue.
On était comme si on était dans votre salon, dans le salon de l'un ou de l'autre. Merci de nous avoir fait partager vos goûts, vos envies et puis vos points communs, vos résonances. Je vous invite à aller retrouver nos deux auteurs pour acheter les livres, pour aller retrouver le recueil, l'anthologie de poésie de Laura. Ces deux romans donc, dont on a parlé, La semaine perpétuelle, Le livre du large et du long, aux éditions du Sous-sol. Vous êtes de moins en moins réel, donc l'anthologie, c'est en poche, c'est chez Point Seuil, et c'est une bonne manière aussi de découvrir votre travail, Laura. Et puis les romans de Yannick, bien sûr, le plus récent étant Le trésorier payeur, l'histoire de ce banquier anarchiste nommé Georges Bataille. C'est un bon teasing, ça. Et puis, bien sûr, le dernier livre dont on a parlé sur Francis Bacon, qui s'appelle Bleu Bacon. Merci de votre écoute. Et merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup.